Europe Matin.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah bah tiens, ils sont encore en studio avec nous. Mathieu Béliard et son invité.
Et oui, oui, mon invité aujourd'hui, c'est Thierry Breton. Il est commissaire européen au niveau de l'Europe.
Oui, ça commence bien.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Mathieu Béliard.
La voix.
Je vous en prie.
Alors Thierry Breton, l'état de l'Union est surprenant, l'état de l'Union européenne, avec ses frontières qui se ferment les unes après les autres. On n'est pas habitué à ça, Thierry Breton.
Écoutez Mathieu Béliard, reprenons, si vous le permettez, depuis le début. L'Europe est un continent. Avec des pays, 450 millions d'Européens vivent sur le territoire de ce continent. Avec la différence des États-Unis, qui sont des États fédéraux, et des États dits très différents, vous l'avez compris, avec une évolution...
Oui, non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait drôle. Ça fait drôle au quotidien. Moi, je vois, je suis d'une génération où il y avait une libre circulation. Vous voyez, je voulais n'importe où, en mobylette, où je voulais. Et là...
Et oui, tout à fait, je comprends, cher Mathieu Béliard. Oui, tout à fait, nous avons des évolutions différentes. Moi, effectivement, j'ai vécu aux États-Unis, j'aurais jamais eu cru que le pont de Brooklyn serait fermé. Et pourtant, c'est une réalité. Chacun a ses préoccupations. Vous visiez dans une ville de 12 habitants en Normandie, vous avez une différence de problématique au niveau de la circulation.
Alors, Thierry Breton, je vais faire celui qui a bossé pour fabriquer un vaccin. J'ai vu qu'il faut des sacs plastiques.
Mathieu, arrêtez, on n'entend plus Nicolas.
Oui, c'est une très bonne question, Mathieu Béliard. La question des sacs plastiques. Effectivement, on met du liquide. Je vais vous expliquer comment fabriquer un vaccin. On met du liquide dans un sac plastique, pas un sac type Kevlar. Avec...
Attendez, je prends la note de la recette parce que j'ai trois gamins et je voudrais vacciner.
Oui, ne faites pas de façon artisanale, vous allez tous les faire crever. Excusez-moi, Mathieu Béliard, mon petit ton de sachant qui fait inévitablement passer mon interlocuteur pour un con.
Oui, oui, d'ailleurs, on va arrêter parce que là, je pense que les gens vont s'en apercevoir. À vous, Julie.
Magnifique, grand moment. Eh ben Mathieu, c'était tellement bien qu'on va vous garder pour le rappel de l'actu.
Oui, je pense que les auditeurs se sont aperçus de rien. Allez, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, j'étais content d'avoir le commissaire européen parce qu'il y a plein de R dans commissaire et dans européen. Europe 1, troisième jour. Eh oui, je commence à fatiguer, vous l'avez compris, mais je tiens le coup. Troisième jour, je tiens la matinale à bout de bras. J'ouvre Europe 1, vous l'avez compris, je fais les journaux, les interviews, les vitres du studio. Ça fait, oui, je vous le concède, ça fait des grosses journées. Mais je tiens bon parce que Jimmy Mohamed m'a pris l'attention. Il faut le lire, auditeur. J'ai quatre. Mais la bonne nouvelle, c'est que je mange à la cantine européenne où il y a de la viande et du poisson. Allez, ça va aller. Allez, l'info du jour. Merde, j'ai bugué. L'info du jour. Ah oui, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, après sa rencontre avec les agriculteurs, a tweeté « Je remercie tous les agriculteurs et agricultrices de nous nourrir ». C'est sympa, mais c'est un peu leur boulot aussi, non? Bref, vivement demain et le tweet de remerciement à tous les conducteurs de bus qui nous conduisent. Puis à tous les enseignants qui font des cours et à tous les médecins qui auscultent. Merci au président Ventilo de fabriquer de l'air. Voilà. Allez, l'autre info. On passe à une autre info parce qu'il y a plein d'infos. C'est ce reportage ce matin à la recherche des pierres qui serviront à la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Un sujet qui passionne les Français. La cathédrale de Paris qui avait pris feu il y a 2 ans, vous en souvenez. Et oui, du coup, on se pose toute cette question. Est-ce que Notre-Dame de Paris sera finite avant qu'on soit tous vaccinés? Qui va gagner la course? Nous, la cathédrale, on ne sait pas.
Oh bonjour, je suis pas de merde. Est-ce que je vous ai dit l'origine du mot coquille?
Non,
j'ai un petit peu un grivois. Oh oui, je me ris dessus. C'est tellement hilarant. Allez, je vous l'aurais dit. Quand on gomme le cul de coquille, ça fait quoi? Alors que quand on gomme le C de coquille, ça fait oquille.
Bah, c'est pas drôle.
Oui, c'est moins drôle que couille, c'est sûr. Oh non, je l'ai pas dit. Oh non, pas sur Europe.
Allez, merci beaucoup. On enchaîne. Après Nice, c'est au tour de Dunkerque d'être ciblé par de nouvelles restrictions. Jean Castex, bonjour.
Bonjour, madame Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Et bonjour aux papis et aux mamies niçois qui ne peuvent plus se faire bronzer à cause du confinement. Et aux papy et mamie de Dunkerque qui ne peuvent plus se faire bronzer à cause de Laurent Cabol et de sa médiocre météo.
Alors la situation s'est dégradée rapidement à Dunkerque, hein, je crois.
Oui, et non. En fait, la dégradation de la situation à Dunkerque date de la création de Dunkerque. Et oui, c'est très vieux, ça remonte à très loin. Un jour, que je vous raconte l'histoire à la façon de Monsieur Berne, pourquoi on ne serait que Monsieur Berne qui raconterait l'histoire.
Allez-y.
Un jour, Jean-Pierre Dunkerque, le bien nommé, s'est dit, tiens, si on crée une ville ici. Et là, ça a été le début de la dégradation.
C'est n'importe quoi.
Dès la fin.
Autre chose, la vaccination en entreprise va démarrer demain. C'était une mesure urgente à prendre, selon vous ?
Oui, il fallait se dépêcher de vacciner les travailleurs avant qu'il n'y en ait plus.
Hein, de travailleurs ?
Oui. On est en pleine crise économique. Nous l'oublions pas, des gens avec un emploi dans 3 mois, on va avoir du mal à en trouver. Il faut être réaliste. Mais, pas d'inquiétude. On va accélérer. Nous allons accélérer avec un grand S. Ça va aller vite parce qu'entre le télétravail, je vous l'avoue, les entreprises fermées pour mesures sanitaires et celles qui ont fait faillite, il reste, nous l'avons compté, attendez, il nous reste environ 14 personnes dans les bureaux français. Donc, si vous l'avez compris, nous procédons comme d'habitude. C'est réglé. Même pas 15 jours.
On est rassurés.
14 personnes à vacciner, jour avec un jour de repos, ça fait 15 jours.
Voilà, on est tranquillisés. Merci Jean Castex. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas exprimé dans les médias. Édouard Philippe est notre invité ce matin. Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour ma Julie, bonjour Montbéliard. Comme la ville de Montbéliard.
Ah, de Montbéliard.
Il y a deux ans chez moi. Petit coucou du Havre. Hein, il fait gris, il pleut, comme d'hab. Chez nous, c'est pas comme à Nice, on n'a pas besoin de fermer le littoral. Hein. Personne n'est venu nous voir à Noël. Aux vacances de février non plus d'ailleurs. C'est... Bon.
Alors hier, vous avez fait votre retour médiatique.
Tout à fait, tout à fait. Un an des présidentielles, ma parole était, je le sais, très attendue. Je le sais, c'est bien normal que je parle, je ne suis pas homme à fuir mes responsabilités. Je peux vous dire que j'en avais gros sur la patate, il fallait que je vide mon sac.
Alors, vous vous êtes donc exprimé dans Top of the Foot sur RMC.
Voilà, et j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur la défaite de Paris contre Monaco, sur match nul de Angers à Strasbourg, et puis sur le 4-4-4 mis en place par Lorient face à Lille.
Oui, pardon, mais on s'en moque un petit peu de votre avis sur le foot. On aurait préféré votre avis sur l'année présidentielle qui arrive, par exemple. Est-ce que Macron va se représenter ? Qui sera le candidat de la droite ?
Oulala, non, vous ne prendrez pas ce petit jeu, non, moi je ne parle que de foot, rien que de foot, voilà, mais il y a des analyses intéressantes dans le foot, vous savez.
Ah, par exemple ?
Bien, par exemple que Neymar et Mbappé, par exemple, le couple exécutif à la tête du PSG, quand le PSG les ont signés, il y avait clairement le number one. Neymar. et son second, Mbappé.
Ouais,
Sauf que le jour J, le jour du grand événement, le jour du grand jour J, le match contre Barcelone, Neymar, le chef de l'équipe, le number one, il s'est blessé. Du coup, il n'a pas été en mesure de jouer. Du coup, c'est le second qui est devenu leader. Qui a pris sa place.
Oui.
Et il a montré à l'Europe entière qu'il était bien meilleur que la pseudo-star. La pseudo-star qui, soi-disant, en passant, a quand même bien le melon. Hein. Et je suis le meilleur, et passe-moi la balle, je vais faire tout seul. Et je peux prendre Castex comme Premier ministre. De toute façon, c'est moi qui fais tout seul.
Neymar a pris Castex comme Premier ministre ?
Hein ?
J'aime bien quand on fait des trucs comme ça.
C'est pas compris. Non, ce que je voulais dire, c'est que le foot, c'est passionnant.
Le foot, c'est passionnant.
Quand on décrypte entre les lignes.
Tiens, il y a François Hollande qui arrive. Bonjour, François Hollande. Qu'est-ce qui se passe ?
Vous jouez bien le côté François Hollande qui arrive. Pas du loup. Oui, je voulais dire, Édouard Philippe, passionnant, cette idée de parler de foot. J'avais une question d'ailleurs à ce sujet à propos des métaphores. André-Pierre Gignac.
Oui.
Quand il était en France, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était nul et gros et que son bilan n'était pas bon. Mais il a fait un comeback. Hein. Et aujourd'hui, au Mexique, c'est une légende vivante. Alors on dit quoi ?
Hein, Édouard Philippe, on dit quoi ?
Et on dit très, très bonne idée, Hollande, président du Mexique, voilà.
Grand con, va. T'as la chance de faire de la boxe, parce que je t'aurais tapé. Hein.
Je t'aurais tapé. Oh, t'aurais bon, tapé. On vous laisse, alors vous tapez dessus. C'est la polémique du moment. À Lyon, le maire écolo Grégory Doucet veut que les cantines ne servent plus que des menus sans viande. Jean-Michel Blanquer, bonjour, vous êtes ministre de l'Éducation. Quelle est votre position sur le sujet?
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Bélair. Alors, avant tout, au sujet de l'islam gauchisme à l'université, je pense que...
Non, mais attendez. Non, ça va avec l'islamo-gauchisme. On a parlé que de ça ces derniers jours. Hein. Là, il s'agit des cantines.
Oui, tout à fait. Le sujet, les cantines, nous avons de me rappeler à ce sujet. Eh bien, écoutez, cela m'inquiète, car ça empêche de voir quels sont les élèves qui ne mangent pas de porc. Qui ne va pas simplifier le repérage des islamo-gauchistes.
Oh là, oui, monsieur Blanquer, les cantines, on peut parler des cantines. Vous dites que les enfants ont besoin de protéines contenues dans la viande, voilà ce que vous dites.
Oui, tout à fait, à cet âge-là, les enfants, nous en sommes d'accord, les spécialistes sont d'accord là-dessus. J'en parlais avec monsieur Mohamed, ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de viande le matin au petit déjeuner. Vous leur faites deux bonnes tartines de rillettes à tremper dans le Nesquik. À 11h... Oui, vers 11h, 11h30, quelques tranches de museau vinaigrette. Pour le déjeuner, on mange léger, du boudin en entrée avec une paupiette.
Oh là là.
Pour le dessert, du pâté, au goûter, une glace à la mortadelle, etc. C'est un régime quoi, nécessaire pour bien grossir.
Non, grandir.
Oui, grandir, pardon. Sur un autre plan, l'idée présente un avantage.
Ah bon, lequel?
Mais quand les enfants mangent, ils enlèvent leur masque. Ils postillonnent et ils se contaminent, vous savez. Donc s'ils ont un menu uniquement composé de légumes verts et de cabillaud sans sauce, ils ne vont rien vouloir manger. Le menu sans viande, ça peut être vraiment un très bon moyen de freiner l'épidémie.
Alors pourquoi tout le gouvernement, à part la ministre de l'écologie, tombe sur Grégory Doucet, le maire de Lyon, alors que Gérard Collomb, qui a été au gouvernement avec vous, avait fait exactement la même chose quand il est redevenu maire de Lyon. En plus, les spécialistes disent que les enfants mangent plutôt trop de viande et pas assez de légumes. Alors...
Non mais écoutez, je m'excuse en faux, nous n'avons rien contre les légumes. On a travaillé avec Gérard Collomb. Mais il faut savoir...
Ils sont malades.
Il faut savoir pourquoi fait-on ce menu. Grégory Doucet supprime la viande par idéologie, alors que Gérard Collomb l'avait supprimé parce qu'il trouvait que c'était dur à mâcher. Les enfants ont les dents qui bougent à cet âge-là, vous savez.
Non mais, qu'est-ce que... Non, j'ai entendu que... Non mais franchement, mais qu'est-ce qu'il raconte Jean-Michel Blanquette? J'ai supprimé la viande. Écoutez, non mais, j'ai supprimé la viande parce que les gamins n'ont pas besoin d'en manger tous les jours. Est-ce qu'ils se rendent compte du luxe que c'est d'avoir de la viande dans son assiette? Moi, quand j'étais môme, quand j'étais enfant, nous n'avions de la viande, souvenez-vous, Mme Julie, que lorsque nous chassions nous-mêmes, avec des bâtons, des silex, nous creusons des pièges dans les forêts enneigées, et nous piégeons à l'époque des mammouths. Non, croyez-moi, avoir de la viande, ça se méritait.
Bravo Nicolas. Grand bravo Nicolas Cantelou et les auteurs Nicolas Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, Nicolas et Julie, on vous retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse.